Vous écoutez
RMC.
Lundi 13 juillet,
l'info sur RMC.
Et le journal de 8h, c'est le journal de Julien Coudreau. Bonjour Julien.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Faut-il imposer le port du masque dans les lieux publics? Le gouvernement l'envisage face au relâchement des gestes barrières. Les lieux fermés seraient concernés en priorité. C'est l'aboutissement de 7 longues semaines de négociations, signature cet après-midi des accords du Ségur de la Santé. Nous verrons ensemble ce qu'ont obtenu médecins et personnel hospitalier. Et puis un match de foot en public, une première depuis 4 mois, c'était hier soir au Havre, démonstration du PSG en amical, une victoire 9-0. Faut-il l'imposer pour qu'il soit respecté? Face au relâchement des comportements, le gouvernement étudie la possibilité de rendre obligatoire le port du masque. Interrogé sur cette possibilité hier soir, le Premier ministre Jean Castex a dit vouloir développer son usage, en priorité donc dans les lieux publics fermés. Comment cette annonce est-elle reçue à Paris? Le reportage de Benjamin Pelsi.
Masque sur le visage, Mathieu sort à l'instant du cinéma. Il a regardé le film La bouche découverte, mais il aurait accepté de vivre la séance masquée.
S'il faut le faire, moi je suis pour se protéger soi-même et surtout protéger les autres personnes, donc moi ça me dérangerait pas.
Ouais. Imposer le masque dans les lieux clos, oui, et s'il le faut, Mathieu est d'accord pour appliquer une sanction en cas de non-respect de l'obligation.
Tout va dépendre du civisme des gens. Malheureusement, peut-être que la coercition sera nécessaire. J'espère qu'on n'en arrivera pas là et que le civisme primera en premier lieu.
Pour Emmanuel, en revanche, une sanction serait contre-productive.
Beaucoup de gens ne le supportent pas, le masque, donc c'est vrai que certaines personnes ont de la peine à respirer. Je pense que ça peut au contraire les braquer.
Développer le port du masque comme le veut le Premier ministre va dans le bon sens pour le professeur Robert Cohen, et selon cet infectiologue, il faut même le rendre obligatoire dans les lieux fermés.
Quand on porte le masque, on contamine beaucoup moins le milieu extérieur, ce qui fait que les autres et soi-même, on est protégé.
Ce professeur espère que le gouvernement va prendre ses responsabilités et que les Français accepteront de porter un masque dès qu'ils seront dans un lieu clos.
En Mayenne, début de la campagne de test à grande échelle mise en place par les autorités de santé. Vous le savez, 7 foyers de contamination ont été identifiés dans le département qui a vu son nombre de cas positifs multiplié par 4 en moins de 15 jours. 2 centres de dépistage ouvrent ce matin leurs portes, notamment du côté de Laval, où les habitants, vous allez l'entendre, semblent plutôt prêts à jouer le jeu.
C'est sur base de volontariat, mais c'est mieux pour tout le monde de le faire, par sécurité. Et puis pour éviter de le transmettre encore plus, que ça se développe toujours plus, il vaut mieux être sûr que de continuer à le transmettre.
Ça devrait peut-être même, je pense, être obligatoire, plutôt que sur la base du volontariat. On peut être porteur sain, le transmettre à des personnes plus fragiles, sans jamais le savoir. Et je pense que le dépistage volontaire, entre guillemets, c'est pas assez.
Il est grand temps de le faire. Il faut absolument faire le nécessaire, quoi. Le nécessaire, c'est de faire une campagne de dépistage de façon à ce que les gens ne se contaminent pas les uns les autres sans savoir. Moi, je pense que c'est une bonne décision.
En Catalogne, l'heure n'est clairement plus au dépistage. Les autorités ont ordonné hier soir le reconfinement à leur domicile de plus de 200 000 habitants autour de la ville de Lérida. La zone avait déjà été isolée du reste de la région depuis une semaine, ce qui n'a pas empêché le nombre de nouveaux cas de coronavirus de doubler. Un test négatif en arrivant à l'aéroport, c'est ce que devront bientôt présenter tous les voyageurs en provenance d'un pays classé rouge, pays à risque, à leur atterrissage en France. Le dépistage du Covid sera systématisé dans les prochains jours dans les aéroports français. La France qui rend la monnaie de sa pièce à Pékin. Paris limite à un seul vol hebdomadaire la desserte de son territoire par des compagnies chinoises. On l'apprend ce matin au nom de la réciprocité vis-à-vis d'Air France. Un 14 juillet plus modeste que d'habitude, avec 2 fois moins d'effectifs et un défilé uniquement sur la place de la Concorde à Paris. Crise sanitaire oblige, la fête nationale sera aussi l'occasion de rendre hommage aux militaires et aux soignants engagés pendant le confinement. La part belle sera aussi faite à ceux qu'on a appelés les héros du quotidien, caissières, enseignants, pompiers ou encore gendarmes. Anaïs Denet a rencontré 2 de ses invités particuliers conviés demain à Paris pour RMC.
Pendant toute la crise du Covid, Chantal a assuré son poste de caissière malgré la peur.
Ça a été compliqué de travailler et de se dire, pourvu je ne l'attrape pas.
Demain, Chantal sera à Paris en tribune pour assister à la cérémonie du 14 juillet, une invitation qui la rend très fière.
Très contente de représenter la grande distribution et je suis très fière qu'ils ont une reconnaissance envers nous, la grande distribution, quoi, de nous mettre en avant. et de monter à Paris. Je ne connais pas trop la capitale, mais bon, j'ai hâte. Je ne dors pas beaucoup la nuit parce que j'ai plein de choses qui me viennent dans la tête. Mais non, je suis contente d'y aller. Non, je suis très, très contente d'y aller. C'est une grande fierté à 3 ans de partir à la retraite en plus. C'était une très, très grande nouvelle.
Fierté aussi d'Emmanuel, éboueur à Angers, quand il a reçu le mail d'invitation directement du président.
C'est pas que l'hommage aux militaires, c'est l'hommage aussi aux personnes qui ont travaillé pendant ce confinement. C'est touchant, oui. Le fait qu'au moins, on sait que notre travail est valorisé. Ce métier-là, il est vraiment essentiel. Si on ne ramasse pas les déchets, tout ce qui est les souris, les rats, ça envahit les rues. Et ensuite, ça peut amener aussi beaucoup de maladies et autres.
Aux côtés de Chantal, d'Emmanuel, il y aura bien sûr les soignants, mais aussi des enseignants, des pompiers, des gendarmes, des agents funéraires et des fonctionnaires territoriaux.
7 semaines de négociations et au final près de 8 milliards d'euros mis sur la table. Les accords du Ségur de la Santé seront signés cet après-midi à Matignon. Accord à 2 volets. L'un concerne les personnels paramédicaux. L'autre, la rémunération des médecins hospitaliers pour lesquels un accord majoritaire a donc finalement été trouvé ce week-end. Benjamin Smadja.
450 millions d'euros ont été débloqués pour augmenter les rémunérations des médecins hospitaliers. Dès le 1er janvier 2021, une révision des grilles de salaire est prévue. L'effort sera porté sur le début et la fin de carrière. L'accord prévoit également une augmentation de la prime versée aux praticiens qui s'engagent à ne travailler que dans les hôpitaux publics. Aujourd'hui de 490 euros bruts, cette prime doit passer à un peu plus de 1000 euros. La majorité des syndicats a validé cet accord. Vendredi, c'est sur l'autre volet de ce Ségur que les syndicats avaient donné leur feu vert, celui qui concerne les infirmiers, aides-soignants, agents techniques et administratifs des hôpitaux et des EHPAD, avec une mesure phare, la hausse de salaire de 183 euros net mensuel versée en deux temps, 90 euros en septembre, puis 93 euros en mars 2021.
Il est 8h08 sur RMC. Sa décision était attendue. Gérald Darmanin démissionnera demain de son mandat de maire de Tourcoing. Il l'annonce ce matin dans une interview au journal Nice Matin. Je mentirais aux Français si je leur disais que j'étais capable de faire les deux, dit le ministre de l'Intérieur, dont la nomination, vous le savez, continue de faire polémique. Il a reçu hier le soutien de Marlène Schiappa. La nouvelle ministre en charge de la citoyenneté, placée sous la tutelle de l'Intérieur, affirme qu'elle n'aurait jamais accepté de travailler avec un homme reconnu coupable de viol. Une position inacceptable pour les associations féministes, Margot Bourdin.
Le changement de ministère de Marlène Schiappa passait déjà difficilement auprès des collectifs féministes, mais son soutien à Gérald Darmanin est une nouvelle trahison pour Céline Pic, la porte-parole d'Oser le féminisme.
C'est un reniement complet des convictions féministes qu'elle a affichées alors qu'elle était secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, ça c'est clair. C'est le pire de la culture du viol qu'aujourd'hui défend et promeut Marlène Schiappa. Et il y a un effarement par rapport à la complaisance faite d'opportunisme politique, soyons clairs, de Marlène Schiappa aujourd'hui.
Comme Marlène Schiappa, les députés de la majorité font bloc derrière Gérald Darmanin. La lutte contre les violences sexuelles ne doit pas se faire au détriment de la présomption d'innocence, rappelle Alexandra Louis, députée La République En Marche des Bouches-du-Rhône.
Dans les pays où on ne respecte pas la présomption d'innocence, en général, les droits des victimes et surtout les droits des femmes ne sont pas plus protégés. Quand on est politique, on doit rappeler ce message-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas inquiéter quelqu'un dans notre société pour des faits qu'il n'a pas commis. Quand on commence à ne plus respecter ces principes-là, ça commence à devenir extrêmement problématique.
La députée a rédigé une tribune en soutien au ministre de l'Intérieur. Le texte, signé par plus de 130 députés, devrait paraître cette semaine.
Et puis Marlène Schiappa, qui était la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes et qui est désormais ministre déléguée de Gérald Darmanin, sera mon invitée à 8h35 sur RMC et BFM TV. Et puis juste après ce journal, ce sera Rebecca Amselem, elle est fondatrice de la newsletter féministe Les Glorieuses.
En sport, ce n'était qu'un match amical entre le Havre et le Paris Saint-Germain, mais un match à la saveur particulière hier soir, puisqu'il marquait le retour du public dans un stade en France, une première depuis près de 4 mois. Et une démonstration à la clé du Paris Saint-Germain, victoire 9-0, mais les quelques 5000 supporters havrais présents hier soir au stade Océane étaient tout de même heureux de pouvoir retrouver les tribunes, Anthony Reich.
Après 4 longs mois à regarder des vidéos de foot sur internet, Laurent, fidèle supporter du PSG, a savouré ses retrouvailles avec son équipe dans un stade.
Ça fait beaucoup de bien, que du bonheur. On avait la nostalgie depuis plusieurs mois de rester à la maison sans voir de football, donc c'est super.
Ils étaient près de 5000 chanceux à assister à l'écrasante victoire du PSG tout en respectant les distanciations sociales et les mesures sanitaires dans le stade. Thomas est prêt à tous les efforts pour revoir du foot.
C'est soit ça, soit on reste à la maison et les stades sont vides.
faut accepter ce genre de compromis si on veut petit à petit redevenir à la normale et pas replonger à l'automne vers une situation compliquée.
Seul bémol, pour Mathieu, sans les copes de supporters dans le stade, l'ambiance n'était pas encore au rendez-vous.
L'émotion d'un match avec des supporters, des cris, tout ça, de la rane, c'est pas la même chose. On a hâte que ça reprenne vraiment avec des stades pleins et avec des supporters, que ça fasse du bruit dans les stades.
Après cette première réussie, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, va travailler à l'extension de la jauge de spectateurs dans les stades dans les prochaines semaines.
Le reportage RMC d'Anthony Reich, il est 8h11 sur RMC Apolline.